Santé pour tous. Santé pour tous. Tous les jeudis, Paul Bénédicte Bolou pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être. Interview, reportage et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix.
L'autisme, trouble neurodéveloppemental complexe, représente un défi majeur pour les systèmes de santé à travers le monde, y compris en Côte d'Ivoire. Dans un contexte où la santé mentale est désormais reconnue comme une priorité nationale, le Programme national de santé mentale s'engage avec détermination à améliorer la prise en charge et la sensibilisation autour des troubles du spectre autistique. Ce magazine va explorer les avancées, les enjeux et les perspectives de la Côte d'Ivoire en matière d'autisme en s'appuyant sur les initiatives stratégiques du Programme national de santé mentale qui vise à renforcer les services de santé mentale, à promouvoir l'inclusion sociale et à soutenir les familles concernées. À travers cet éclairage, le directeur coordonnateur du Programme national de santé mentale va contribuer à une meilleure compréhension de l'autisme et à la mobilisation collective pour un accompagnement adapté et humain. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous sur Radio de la Paix.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
Merci au directeur coordonnateur du Programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire d'être avec nous aujourd'hui pour parler d'autisme. Professeur Assemon Médarkoua, dites-nous, c'est quoi le trouble du spectre de l'autisme?
Les troubles du spectre de l'autisme, généralement, on utilise le terme autisme. Mais en fait, il s'agit d'une variété de troubles et c'est la raison pour laquelle on parle de spectre. Donc, c'est une diversité de manifestations de ce type de troubles. Et les troubles du spectre de l'autisme constituent le chef de file de ce qu'on appelle les troubles du neurodéveloppement. Et la caractéristique des troubles du neurodéveloppement, c'est que ce sont des problèmes de santé dont les premières manifestations apparaissent dans la petite enfance. Donc, dès la naissance, dès les 3 premières années ou encore de 0 à 59 mois, nous voyons apparaître les premiers signes de la perturbation du développement du jeune enfant, et c'est la raison pour laquelle on parle des troubles du développement précoce. Il y a plusieurs types de troubles du neurodéveloppement. Et les plus fréquentes, il y en a au moins 2. Il y a les troubles du spectre de l'autisme et il y a les troubles du développement intellectuel, encore appelé la déficience intellectuelle, ou que les gens vont appeler retard mental, ou on va dire ce sont des attardés mentaux. Et les troubles du spectre de l'autisme sont les troubles les plus fréquents de la famille des troubles du neurodéveloppement.
Professeur Kwa, quels sont les différents éléments qui marquent cette fréquence?
Le premier élément, c'est que au niveau des données, au niveau mondial, nous avons des estimations, nous avons des statistiques qui nous disent que 1% de la population mondiale présenterait des manifestations du spectre de l'autisme. Donc, seraient des personnes autistes. Puisque l'autiste, les premiers signes apparaissent, donc la personne naît avec ses symptômes, ses premières manifestations, et ces symptômes vont perdurer dans le temps jusqu'à la fin de la vie de l'individu en fonction du niveau, de la forme, de gravité ou pas, et en fonction du délai de repérage, de diagnostic et de toutes les interventions qui auront lieu pour pouvoir réduire les perturbations observées. Donc, premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, les troubles du spectre de l'autisme, qu'est-ce qui fait la spécificité pour qu'on puisse bien se suivre, touche les troubles de la communication sociale. Et quand on parle de la communication sociale, il y a la communication verbale et il y a la communication non verbale. Et ce sont ces deux modalités de communication qui permettent à un individu soit de pouvoir comprendre, de pouvoir interagir avec les autres, de pouvoir naturellement communiquer avec les autres. Et donc, premier élément, trouble de la communication sociale. Deux éléments, trouble des interactions sociales, de la régulation sociale, de l'interaction sociale, associés à des comportements qu'on appelle un peu répétitifs, encore appelés stéréotypies. C'est un peu comme si la personne fait les mêmes choses. Donc, lorsqu'on parle de trouble du spectre de l'autisme, il faut voir ces trois éléments. Perturbation dans la communication sociale, perturbation dans les interactions sociales, perturbation manifestée par des comportements ou des attitudes un peu répétitives. C'est les éléments de définition et je vous ai dit c'est 1% de la population mondiale.
Quels sont les principaux critères utilisés justement pour diagnostiquer les troubles du spectre autistique, mais au-delà, que savoir de la prise en charge?
Le diagnostic s'appuie essentiellement sur des éléments d'observation clinique. Il n'y a pas de test biologique, il n'y a pas de test d'imagerie. Troisième élément de problématique, l'objectif de la prise en charge, c'est essentiellement améliorer la qualité de vie, faire de la rééducation, prendre en charge des troubles associés, favoriser le développement des compétences sociales, émotionnelles ou comportementales du jeune, de l'enfant, du jeune adulte et de l'adulte.
Alors, quelles sont les causes possibles de l'autisme?
Il y a des problèmes de santé. On connaît l'origine, on connaît la cause. Un exemple, le paludisme, on fait un examen dans le sang, on découvre le parasite, on met un traitement, la personne guérit. Mais vous prenez le cas, par exemple, du diabète, vous allez faire un bilan de sang. Oui, on a des anomalies au niveau du taux de sucre, mais si vous posez la question au médecin, qu'est-ce qui est à l'origine de ce diabète? Il vous dira deux choses. Soit je sais, soit je ne sais pas. Et quand on ne sait pas l'origine des problèmes de santé en médecine, on utilise le terme facteur de risque. Et les troubles du neurodéveloppement, comme l'autisme, n'a pas une cause identifiée. C'est très important de comprendre. On parle plus de facteurs de risque. Et dans les facteurs de risque, on a des facteurs d'origine génétique, mais je vais nuancer ce que ça veut dire. Et il y a des facteurs environnementaux. Quand on parle de facteurs génétique. Aujourd'hui, on n'a pas un gène identifié. C'est un peu comme si vous dites le diabète, oui, il y a un facteur de risque familial. Ça veut dire si dans la famille, il y a quelqu'un qui est diabétique, il y a un risque dans la descendance ou bien dans la fratrie, il y a une transmission de traits du diabète. Mais il faut des facteurs environnementaux pour la manifestation de ces signes du diabète. Et dans le cas de l'autisme, il y a un facteur de risque identifié. Lorsque dans la famille, on a déjà un enfant qui est autiste, il y a un risque. Mais quand on dit un risque, ça ne veut pas dire que forcément le deuxième ou le troisième enfant sera autiste. Il y a un risque. Deuxièmement, quand on a un enfant prématuré, c'est un risque. Troisième élément, quand on a des grossesses tardives chez des personnes âgées, il y a un risque. Je dis bien, il y a un risque. Mais à ces facteurs de risque, il faut prendre en compte des facteurs environnementaux.
Quels sont les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge des patients?
Tout dépend de où on commence la prise en charge. Tous les professionnels de santé sont impliqués et doivent être impliqués. Depuis le nouveau communautaire, l'agent de santé communautaire, son rôle, c'est de surveiller, de parler avec les femmes enceintes. Quand l'enfant naît, de la même manière qu'il va suivre l'état nutritionnel de l'enfant, il doit observer l'enfant pour voir les interactions, pour voir est-ce que l'enfant parle, est-ce que l'enfant sourit, est-ce que l'enfant réagit comme les autres. Deuxième chose, c'est la sage-femme. À partir du carnet mère-enfant, à partir du suivi du développement, autour des 1000 premiers jours, le médecin généraliste pour poser le diagnostic, pour organiser la prise en charge, souvent il faut mettre un traitement, souvent il faut suivre les instructions des spécialistes, parce que la vie d'un enfant, ce n'est pas chez le spécialiste, la vie d'un enfant, c'est dans la communauté. Et donc, l'agent communautaire peut participer à ce qu'on appelle la réadaptation à base communautaire pour développer les habiletés. Effectivement, ce n'est pas encore suffisamment développé. Nous sommes conscients de cela et c'est justement ces efforts que nous sommes en train de faire pour améliorer la prise en charge communautaire, pour réduire les coûts de la prise en charge. Parce que aujourd'hui, la prise en charge reste encore élevée. Mais la dynamique aujourd'hui, nous avons des nouveaux métiers qui sont au niveau du ministère de la Santé. Et un des métiers stratégiques dans la prise en charge, le corps de métier stratégique, c'est le métier d'orthophoniste. Et on verra avec vos responsables pour qu'on puisse mettre à disposition un spécialiste orthophoniste qui va venir parler de l'orthophonie, de sa place dans le système de santé et de sa place dans la prise en charge des enfants autistes. Aujourd'hui, nous sommes passés, il y a 5 ans, de 0 orthophoniste à 7 orthophonistes dans le secteur public. Parce qu'avant, la séance de rééducation coûtait très cher, souvent 25 000, souvent 30 000. Aujourd'hui, le bilan orthophonique coûte 5 000 francs dans le secteur public. Premier élément. Deuxième élément, les séances de rééducation, nous sommes en train de travailler pour réduire les coûts, pour passer de 5 000 francs la séance à 2 000 francs
la science de rééducation. Et on a aujourd'hui avec l'INFAS, on a 17 orthophonistes qui viennent de finir leur formation, qui seront déployés dans les 10 pôles, de telle sorte que quelqu'un qui se trouve à San Pedro n'a plus besoin de venir à Abidjan pour des séances de rééducation orthophonique s'il a un enfant autiste. Celui qui se trouve à Korogo, celui qui se trouve à Odiené, celui qui se trouve à Bondoukou, celui qui se trouve à Daloa, à Yamsokro, à Man, n'a plus besoin d'effectuer de longues distances. Et donc, au fur et à mesure, ces métiers, ces nouveaux métiers, vont s'intégrer et vont être vulgarisés au même titre que les sciences de rééducation chez le kiné. Et nous sommes en train de travailler justement avec les kinésithérapeutes parce que souvent, il y a des problèmes de troubles de la motricité qu'on observe chez ces enfants et qui sont souvent sujets à des instabilités. Et donc, faire de telle sorte que les kinés participent à la rééducation motrice ou psychomotrice de ces enfants qui sont instables pour certains. Troisième niveau de réponse, aujourd'hui, nous sommes en train de déployer les sages-femmes spécialisées en santé mentale de la mère et de l'enfant pour justement appuyer l'action des sages-femmes généralistes qui, lorsqu'elles identifient ces enfants, les sages-femmes spécialistes vont confirmer et coordonner la prise en charge avec les médecins généralistes et les médecins spécialistes. Nous avons actuellement peu de médecins spécialistes de l'autisme, de pédopsychiatre ou même de pédiatre. Et donc, l'effort, ça sera d'ici 2 ans d'augmenter le nombre. Et il y a au niveau de l'INSP, du Programme national de santé mentale, l'effort de renforcer des programmes de renforcement des capacités avec la Fondation Orange de ces médecins, de ces travailleurs sociaux pour augmenter le nombre de ressources humaines qui seront dédiés à gérer la question de l'autisme et des autres problèmes du développement. Prise en charge médicamenteuse. Il n'y a pas de médicaments pour guérir l'autisme ou pour soigner l'autisme. Les médicaments qu'on donne, ce sont des médicaments qu'on appelle des adjuvants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on donne ces médicaments si l'enfant est agité, on donne une petite dose de médicaments pour le calmer, mais ce n'est pas pour agir sur l'autisme, la nature du trouble. Il faut que ça soit très clair. Deuxième élément, si l'enfant présente de l'autisme associé à de l'épilepsie, le traitement qu'on donne, c'est pour réduire les crises d'épilepsie. Donc, c'est très important de bien comprendre la place des médicaments. Il n'y a pas un médicament pour traiter l'autisme. Jusqu'en 2025, il n'y en a pas. C'est clairement formulé dans les directives de l'OMS et puis dans les éléments de preuve de prise en charge. Avec le centre Ebonlé, il existe des programmes de guidance parentale pour transférer justement les compétences aux parents pour savoir comment gérer au quotidien, comment faire face aux crises des enfants. Lorsque l'enfant est en crise, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire?
Est-ce que la couverture maladie universelle va prendre en compte dans son assiette les coûts de santé des personnes autistes?
Je vous ai dit, les coûts de santé, déjà, c'est important que tous les enfants de 0 à 5 ans aient le 4 CMU. Parce qu'en ayant la 4 CMU, ça permet aux enfants d'avoir accès déjà aux prestations de santé de base, au bilan de santé de base. Deuxième élément, en ayant la 4 CMU, ça permet en même temps de savoir le nombre d'enfants enrôlés CMU qui sont porteurs d'autisme et fait au fur et à mesure de telle sorte qu'on identifie les besoins de rééducation orthophonique. On vous a dit les orthophonistes dans le secteur public. Et donc, toute la question, c'est de faire de telle sorte que le panier de soins puisse intégrer la rééducation orthophonique. La rééducation des kinésithérapeute est déjà pris en compte dans la CMU. Donc, l'autre étape, ça sera justement tout ce qui est rééducation orthophonique et tout ce qui est bilan complémentaire. Les bilans complémentaires ne sont pas aussi exorbitants. Et donc, déjà, enrôler les enfants parce que l'enfant peut être autiste, mais peut souffrir de paludisme. Il peut souffrir d'épilepsie. Il peut avoir une fièvre ou bien avoir d'autres problèmes de santé qui sont couverts par la CMU. Et souvent, c'est justement l'importance de pouvoir faire de telle sorte que, en dehors des problèmes directs liés à l'autisme, l'enfant peut avoir d'autres problèmes de santé et la 4 CMU permet justement à offrir un paquet minimal de services. Quand on regarde depuis 5 ans, la Côte d'Ivoire fait partie des pays où les avancées en matière de prise en charge, d'affectation, je vous ai donné des chiffres, on est passé de 0 orthophoniste à 7 orthophonistes en 2024 et cette année, on a fini avec l'INFAS d'avoir 17 orthophonistes diplômés et donc on a 24 orthophonistes qui seront pour le secteur public avec des coûts moindres. Et c'est justement l'importance. Il n'y a pas à désespérer. On vous donne l'information et l'information juste. On actualise votre information, vos bases de données, de communication pour que l'information que vous donnez ne fasse pas désespérer les populations. Il y a des avancées. En Côte d'Ivoire, il faut encore faire plus, mais on a déjà fait un peu beaucoup.
Quels sont les obstacles majeurs que vous rencontrez dans cette lutte, dans cette sensibilisation?
Déjà, premier obstacle, c'est l'ignorance. L'ignorance tue. Donc, il y a des barrières communautaires. Vous dites, ce problème, on ne soigne pas ça à l'hôpital ou bien on ne gère pas ça à l'hôpital. C'est déjà un obstacle. D'où l'importance de lever cet obstacle par la sensibilisation. Deuxième élément, l'agent de santé qui n'est pas bien formé représente un danger, un obstacle. Il peut retarder la prise en charge. Il peut être un obstacle à un dépistage précoce, à une prise en charge précoce, d'où l'importance de les sensibiliser, d'où la thématique de cette année. Troisième élément, l'obstacle, c'est de faire de telle sorte que les capacités, l'accessibilité aux services de diagnostic soient rapprochées des populations. C'est l'effort du ministère de la Santé. Faire de telle sorte que la prise en charge soit accessible géographiquement, soit accessible financièrement. Et c'est ce travail que nous faisons continuellement. Communiquer pour briser les tabous, pour engager les familles, pour susciter l'engagement constant des agents de santé, interpeller la direction du programme de santé mentale sur des actions à amplifier et donc communiquer pour changer, communiquer pour améliorer.
Comment peut-on définir les stratégies proposées par le programme de santé mentale que vous dirigez?
Alors, la stratégie est simple. On va vers des approches intégrées. Donc, avec le programme Mère-Enfant, avec les associations professionnelles, Sogosi, ASSI, vous allez bientôt voir que dans le processus de distribution des nouveaux carnets mère-enfant, il va y avoir des approches intégrées pour intensifier la sensibilisation sur l'importance de la surveillance du développement, du repérage des signes d'alerte. Et lors de la journée internationale des sages-femmes, ça sera l'occasion pour nous de pouvoir aller en intégration et sensibiliser, former les coordinatrices mère-enfant et aussi travailler avec vous pour intensifier la sensibilisation.
Que compte faire le programme justement pour améliorer la compréhension et l'acceptation de l'autisme dans la société de façon générale ici dans notre pays?
Le premier projet dans la sensibilisation, on attend vraiment des communicateurs en santé. Parce que pour nous, pour résoudre les problèmes de santé, les premiers acteurs du changement du comportement, de l'utilisation des services, des bonnes pratiques, ce sont les communicateurs. Quand on a des communicateurs en santé bien formés, plus engagés, on résout au niveau communautaire 80% des problématiques, d'obstacles à l'accès aux soins, d'accroître la demande de services. On démocratise, on attire l'attention des bailleurs, de l'État sur des solutions, des situations à améliorer. Et pour nous, ce partenariat est très important. Deuxième élément, c'est de déployer des unités de prise en charge dans les 10 pôles régionaux d'excellence sanitaire. Parce que c'est très important. Troisième élément, c'est justement le projet de renforcer avec l'OMS les compétences, les programmes de compétences des familles pour avoir des familles experts. Quatrième élément, c'est de renforcer les ressources humaines, orthophonistes, des jeunes psychologues qui seront formés tout le mois d'avril pour faire l'accompagnement psychologique des parents, des personnes concernées, pour faire aussi les bilans fonctionnels qui sont utiles et faire de telle sorte que ces bilans soient à moins coût. Et cinquième élément, c'est de développer des stratégies avancées pour soutenir les sages-femmes avec l'association des sages-femmes, de telle sorte que la surveillance du développement des enfants ne soit pas un luxe, un élément majeur du capital humain, parce que l'enfant représente l'avenir de nos sociétés. Le capital humain de l'enfant est très important.
Quelle action véritable l'État de Côte d'Ivoire entreprend-il aujourd'hui pour lutter contre cette maladie?
C'est justement de sensibiliser pour mieux connaître ce que c'est que l'autisme, sensibiliser les acteurs de santé pour mieux repérer, pour mieux détecter, diagnostiquer et assurer une prise en charge précoce, sensibiliser pour montrer que malgré ce type de trouble, des solutions existent, des prises en charge existent et sont en amélioration continue en termes de capacité de diagnostic, capacité de prise en charge intégrée, capacité de travail collaboratif.
Un enfant autiste, ce n'est pas un génie. Il y a des enfants autistes qui sont intelligents, comme il y a des enfants non autistes qui sont intelligents. Il y a des enfants autistes qui sont hyper intelligents, comme il y a des enfants qui sont non autistes qui sont également hyper intelligents. Ce ne sont pas des espèces rares, ce sont des êtres humains. La Côte d'Ivoire a ratifié la Convention internationale de protection des droits des personnes handicapées. Donc, par voie de conséquence, ça prend en compte les personnes en situation de handicap et les personnes autistes. C'est une forme d'handicap cognitif. Donc, le cadre est là. Contraignant ou pas, nous, au niveau du ministère de la Santé, on n'est pas dans la contrainte. On est dans l'accompagnement, dans la communication pour un changement de comportement et pour créer des dispositifs. Parce que pendant longtemps, la question de l'autisme était méconnue, il faut l'avouer. Et donc, il faut mettre en lumière cette réalité et aller vers une pédagogie d'accompagnement pour un changement, pour des bonnes pratiques, des bonnes manières de faire, des bonnes manières d'être à l'écoute des besoins ou des attentes des personnes autistes et de leurs familles.
Merci infiniment, professeur Assimo Kwame Dar.
Santé pour tous. Santé pour tous.
L'autisme est un sujet complexe qui mérite notre attention et notre compréhension. À travers ce magazine de santé, nous avons exploré les différentes facettes de ce trouble de développement en mettant en évidence, en mettant en avant les défis auxquels les personnes autistes sont confrontées, ainsi que les avancées en matière de recherche et les soutiens dans notre pays. Il est essentiel de promouvoir l'inclusion et la sensibilisation pour créer un environnement où chacun peut s'épanouir indépendamment de ses différences, au dire du directeur coordonnateur du Programme national de santé mentale en Côte d'Ivoire, professeur Kwame Dar Assimo. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouveau numéro consacré à la santé et au bien-être.